Bonjour Lola Lafont.
Bonjour.
Quand tu écouteras cette chanson et votre tout dernière écriture, j'ai envie de dire, qui est sortie aux éditions Stock dans la collection Ma nuit au musée, vous avez passé une nuit à l'annexe à Amsterdam, qui est le lieu dans lequel Anne Frank a résidé 2 ans avec 7 autres personnes, dont sa famille. Et en lisant votre livre, j'ai vraiment eu le sentiment que tout dans votre vie et dans votre écriture convergeait vers ce moment. Est-ce que vous aviez conscience aussi de cela en allant à l'annexe et en écrivant ensuite?
Alors, heureusement, non. Pas en y allant, parce que sinon, j'aurais jamais pu y aller. Mais peut-être que ça explique que j'ai eu tellement de mal à y aller. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est moi qui ai choisi, évidemment. J'ai tout de suite voulu y aller quand il y a eu la proposition d'écrire un texte pour une nuit au musée. Ça a été une évidence. Je ne me suis pas posé de questions. Je savais que c'était là que je devais aller. Je crois que j'ai eu un petit peu ce sentiment que c'était pour un récit... alors je dirais pas urgent parce que c'est un peu prétentieux, mais que je devais écrire au moment de l'écriture, c'est-à-dire que très concrètement, en fait, moi qui suis quelqu'un qui peine, qui me plaint beaucoup, qui passe par des périodes de grand désespoir, là, une fois que j'ai eu le plan et que j'ai pu un petit peu me poser les questions habituelles de comment s'organisait ce récit d'un point de vue spatial. J'ai écrit vraiment avec une très grande fluidité, même si je réécris toujours beaucoup. Donc un peu, je réponds à votre question, oui.
Oui, oui. Dans votre écriture, il y a très très souvent quand même une question qui est un rapport au corps. Et là, vous écrivez dans celui-ci que finalement, c'est une appréhension de l'espace à défaut de pouvoir appréhender le temps. Et on pense aussi à peut-être ce que ça vous a coûté d'un point de vue physique d'être sur place, mais aussi d'écrire.
Oui. Alors, j'hésite à en parler. C'est vrai que c'est la première fois qu'on me pose la question et je suis toujours embarrassée parce que tout me paraît obscène. Si je vous dis que j'ai peiné par rapport à Anne Frank, par rapport au sort qui attendait elle, sa sœur, ses parents, sa famille, il me semble qu'on n'a pas le droit de dire que c'était difficile d'écrire. Tous les mois passés à écrire ce récit, j'ai été obsédée par 2 ou 3 choses, dont une était ne jamais être en comparaison, ne jamais être en parallèle, parce qu'on ne peut pas le faire, à mon sens. Il faut être ailleurs, donc on en parlera peut-être. Mais je vais quand même vous dire oui, encore une fois, parce qu'effectivement, il y a eu 1 ou 2 fois pendant les mois d'écriture où je me suis arrêtée et je me suis dit il faut pas que ce récit il faut pas qu'il t'engloutisse, quoi. Il faut, oui, bien sûr que quand on écrit parfois on est penché sur des choses difficiles ou sensibles. Là, j'ai eu le sentiment qu'effectivement il y a un abîme dans cette histoire là l'histoire d'Anne Frank, c'est un abîme européen, j'ai envie de vous dire. À mon sens, on doit tous s'y pencher et écrire tous les jours dessus. Je pense que oui, il y avait des fois où je me disais qu'il fallait faire attention.
Et cet ailleurs dont vous parlez, c'était un ailleurs pour essayer de justement garder cette distance. Il est où cet ailleurs?
Oui, je pense que oui. C'est important en général quand on écrit de toute façon de garder une distance parce que ça permet d'avoir une vue large sur ce qu'on écrit et de pas être de voir tout le tableau, j'ai envie de dire vraiment. C'est quelque chose auquel je fais très attention en général, c'est d'avoir une petite distance pour pas imaginer qu'on a une vérité. Quand je parlais de pas être en parallèle, c'est plutôt l'image du reflet qui m'a menée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle reflète de nous, cette histoire, finalement? Qu'est-ce qu'Anne Frank dit de nous?
Et qu'est-ce qu'elle dit de nous, cette histoire, Lola Lafont?
Mais qu'est-ce qu'elle dit de nous? Elle dit beaucoup de choses. Elle dit l'amour qu'on lui porte dit notre obsession. C'est un peu mon thème, mais des jeunes filles. C'est-à-dire que c'est encore une jeune fille adolescente qui est une icône mondiale. Elle dit aussi notre impossibilité de les entendre, ces jeunes filles, parce que finalement, au fur et à mesure de la nuit et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Alors que je croyais que je savais beaucoup de choses sur Anne Frank. C'est-à-dire que m'attaquer à un sujet comme ça, si connu, c'était aussi un défi, parce que c'est difficile d'écrire sur quelque chose que tout le monde croit connaître. Et puis, je me suis retrouvée dans la situation de n'importe qui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose et que cette ignorance dit de nous, c'est qu'on a préféré retenir certains passages du journal plutôt que d'autres.
Vous l'avez dit, c'est une thématique qui vous touche beaucoup, l'adolescence, en tout cas qui vraiment parcourt votre écriture. Et en même temps, dans ce livre-là, vous parlez aussi beaucoup de l'exil. Vous parlez de votre famille, de votre grand-mère. En lisant votre livre, Lola Lafont, je me suis posé la question, est-ce que pour vous, finalement, quand vous écrivez Chavirer aussi bien que ce livre-là, vous parlez de l'exil de ces adolescentes qui sont brutalement plongées dans l'âge adulte comme un voyage, comme un ailleurs, sans être volontaire, sans le vouloir, sans pouvoir garder ce qu'il y a de l'innocence nécessaire ou de la liberté de l'adolescence. Est-ce que finalement, dans ce livre-là, vous rejoignez cette thématique-là aussi?
Vous l'avez parfaitement dit. Je pense que j'ai rien à ajouter. Oui. Et ça encore, je crois que d'ailleurs, on ne sait jamais ce qu'on écrit. On imagine toujours qu'on commence quelque chose de différent. Donc, je n'avais pas conscience à ce point-là de la gémellité ou de, encore une fois, du reflet entre certains, presque tous mes romans. C'est-à-dire que oui, il y a un voyage. Alors, ce qui est poignant pour Anne Frank, c'est que j'étais dans le lieu où ce voyage minuscule, dérisoire, se fait, l'écriture se construit, son voyage entre l'adolescence et ce passage hyper accéléré à l'âge adulte, il se fait dans moins de 45 mètres carrés. Et toute la nuit, j'ai compté des pas, en fait. Le nombre de pas qu'il y avait entre sa chambre et puis la petite salle commune, le nombre de pas qu'il y a entre sa chambre et le grenier. Ce voyage dont vous parlez, qui est effectivement quand on a 12-13 ans, on est propulsé comme ça. Et quand on est une femme, c'est pas pareil parce que on passe au statut de proie quand on est une jeune fille. C'est quelque chose que toutes les filles savent, voient, vivent. Pour elles, c'est quelque chose. Il y a un voyage presque immobile par deux petits escaliers, et puis elle va. On la voit grandir, c'est-à-dire que dans l'écriture, elle va passer entre 13 et 15 ans à elle n'est plus une enfant. Alors, je sais même pas si elle a eu le temps d'être une adolescente, en fait, finalement.
C'est de ça dont vous parlez aussi quand finalement vous nous poussez à lire autrement le journal d'Anne Frank comme celui d'une jeune fille avant tout, puis d'une autrice.
Oui. Oui. Parce que finalement, le titre original de ce que nous, on appelle le journal d'Anne Frank, ça n'est pas journal, c'est l'annexe. Et ce n'est pas un journal. Et ça, évidemment, ça fait partie des choses que je ne savais pas du tout et que j'ai eu la chance d'apprendre un tout petit peu avant d'y aller, puisque j'ai eu la grande chance de rencontrer Madame Laurine Nussbaum, qui est, je crois, une des dernières personnes en vie à avoir très bien connu les deux sœurs Frank, puisqu'elles vivaient à peu près au même âge dans le quartier Merway des Plaines où les familles Frank et Nussbaum vivaient avant d'être arrêtées, avant de rentrer en clandestinité. Et puis, Madame Nussbaum est devenue une très grande professeure de littérature, une spécialiste du journal d'Anne Frank. Et c'est en la rencontrant par Zoom, parce qu'elle habite aux États-Unis, que j'ai été un peu secouée parce que elle m'a tout de suite dit attention, ça n'est pas une œuvre, le journal d'une jeune fille qui écrit juste, enfin, juste, c'est déjà beaucoup, hein, d'ailleurs, ses sentiments, ses journées, puisque Anne Frank a tout réécrit. À un moment donné, elle a tout réécrit et qu'elle a fait œuvre d'autrice, du coup, parce qu'effectivement, l'écriture, la réécriture, c'est le début du passage pour moi de la diariste à l'autrice. Et j'ai pu comparer les deux versions. Et c'est extraordinaire de pouvoir voir les deux versions parce que on voit les choix qu'elle a fait, on voit ce qu'elle a supprimé parce que peut-être elle trouvait que c'était pas intéressant. On voit comment elle réordonne les choses, comment elle explique, comment elle contextualise historiquement. C'est-à-dire que Anne Frank, elle voulait être publiée. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que, c'est quelque chose d'assez bouleversant aussi. Quand on lit le journal, c'est peut-être ce qu'on ressent, hein, je sais pas. Le texte nous est adressé totalement, c'est-à-dire elle pense à des lecteurs. On n'a pas fouillé dans ses cartes, dans des tiroirs et sorti quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu qu'on lise.
En tout cas, quand on vous lit, bien sûr, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de lire ou relire le journal d'Anne Frank, et on ne le lit pas du tout de la même façon. Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas c'est celle que moi j'ai eue en lisant votre livre, Lola Lafont, est-ce que finalement vous avez l'impression en ayant écrit ce livre que vous donnez une voix au silence?
J'aimerais bien. C'est un peu. J'ai l'impression que c'est l'obsession qui me tient dans chaque roman. Finalement, je vois l'écriture comme ça, c'est-à-dire que faire sortir les choses de l'oubli, du déni, du non-dit, du non-raconté. Pour chavirer, je savais très bien ce que je faisais, c'est-à-dire que je racontais l'histoire d'une jeune fille qui n'est jamais entendue, qui est victime de pédocriminels et qui ne peut pas raconter son histoire. Là, je ne m'attendais pas, en entrant dans l'annexe, à apprendre que le journal, c'est-à-dire ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elle écrit, a été tellement coupé, a été tellement réorganisé pour plaire au monde entier, par Hollywood, par Broadway. Ça, je ne m'attendais pas à le trouver. Et c'est sidérant, parce que quand j'ai appris que, au moment d'en faire une pièce de théâtre, les producteurs ont choisi un metteur en scène spécialiste des comédies familiales, ça dit déjà beaucoup. Quand j'ai appris que le premier critique qui est sorti des représentations a dit que c'était formidable à la fin des années 50, parce que en sortant de cette représentation, on n'avait aucune haine contre les nazis, ça en dit long sur nous, ça en dit long sur le déni, ça en dit long sur le silence aussi.
Comment vous l'avez ressenti, ça, quand vous êtes arrivé à l'annexe? Que vous dites, ça a été sidérant pour moi quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de votre première sensation?
Ah oui. Je crois que j'ai eu... Je me suis... Il y avait 10 heures à passer, en fait. Hein, 10 heures. Je crois que j'étais tendue vers un but, c'était de rester. C'est-à-dire, je me suis dit, tu pars pas.
Avec l'envie de partir?
Non, j'avais peur, j'avais très très peur de pleurer. J'étais très très obsédée par l'idée de craquer, de pleurer. Je sais pas pourquoi, parce que même si j'avais pleuré, ça n'aurait pas été dramatique, j'étais seule. Donc sauf pour la vigile, je ne voulais pas du tout être dans quelque chose d'émotionnel pour moi-même. Je voulais être là comme une autrice à noter un maximum de choses. Alors, je dirais que c'était un peu une feinte et que les premiers moments, j'ai noté énormément de choses. Je me suis occupée vraiment pendant deux, trois heures. J'ai écrit beaucoup et puis j'ai marché. J'ai marché, j'ai fait le tour plein de fois, tout en évitant toujours sa chambre parce que je ne réussissais pas à entrer dans sa chambre. Je la voyais, je passais la tête, et puis il y avait quelque chose. Et je ne suis pas en train de dire que je voyais des fantômes ni que je sentais une présence. Ça n'est pas sur ce terrain-là, mais je me posais la question de savoir s'il fallait rentrer dans cette chambre. Donc les premières heures, c'était comme ça.
Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre écriture en général, puisque vous, quand on est avec vous à l'annexe et que vous racontez votre difficulté à rentrer dans cette chambre, Vous mettez quelque chose de sacré sur cette chambre, pas parce que c'est Anne Frank, vous mettez quelque chose de sacré parce que la chambre de l'adolescente est sacrée. Et que dans votre écriture en général, vous racontez comment l'adulte ne respecte pas spécialement cet endroit si sacré.
Ben là, vraiment, c'est tellement physique, c'est-à-dire que là, en passant la tête, effectivement, c'était dans la pénombre, puisque les lumières étaient baissées pour la nuit, et je voyais les cartes postales collées au mur qui sont restées, alors des actrices, des princesses, des animaux, et c'était terrible, parce que c'est une chambre d'adolescent très banale. Et tout d'un coup, je me suis dit, effectivement, pourquoi je rentrerais dans cette chambre, en fait, comment je pourrais rentrer, pourquoi on considère que cette chambre est le cœur de l'histoire d'Anne Frank? Parce que pour moi, le cœur de l'histoire d'Anne Frank, de sa très petite vie, de sa courte vie, il est dans ses écrits. Il est bien là, elle a choisi ce qu'elle avait envie de nous écrire.
Alors du coup, on s'interroge aussi sur le mot musée. Finalement, cet endroit dans lequel vous avez passé une nuit, est-ce que c'est vraiment un musée? Est-ce qu'on peut dire ça de cet endroit?
On peut le dire pour la partie musée contemporain, qui est reliée à l'annexe maintenant depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, puisqu'il y a des documents, mais effectivement pas beaucoup. Il y a quand même des documents, des affiches, Là, on est clairement dans un endroit où vous pouvez circuler d'un objet à l'autre, etc. Effectivement, pour l'annexe, il n'y a rien à voir. C'est peut-être ça que je me suis dit aussi au début. Le vide m'a vraiment frappée. C'est un vide tout à fait voulu par Otto Frank, le père de Anne et de Margot, qui, quand il a accepté d'en faire un musée au début des années 60, a exigé que l'annexe reste dans l'état où elle a été retrouvée après leur arrestation en août 44, c'est-à-dire une fois que les nazis avaient pillé absolument l'annexe, c'était vide, ils voulaient qu'on se confronte au vide. Et je vous assure que ce vide-là, c'est vraiment quelque chose qui vous saisit totalement. Parce que vraiment, moi, je me sentais dans l'appartement de gens absents. Et que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à leur absence. C'était une nuit d'absence qui m'a permis de... je pense qu'il y avait quelque chose qui vous permet d'entendre les absents. Clairement, il y a quand même 10 heures d'absence, de silence, sans, comme vous le dites, sans tableau, sans...
Il y a un autre parallèle qu'on fait quand vous racontez votre nuit à l'annexe de cette façon-là, avec ce vide, et votre façon de décrire votre vision du livre, dont vous dites que finalement, c'est un endroit dans lequel vous ne vendez rien, vous proposez au lecteur un espace à soi pour pouvoir trouver une place, réfléchir. Donc cet endroit, il vous correspond aussi, entre guillemets, pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est vous qui pouviez écrire sur l'annexe pour cette raison-là, parce que vous avez la vision de l'écriture comme quelque chose d'ouvert.
J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que je n'aime pas l'idée d'un... Je n'aime pas l'idée d'une écriture qui dirige. Je n'aime pas l'idée d'un roman qui m'assène des choses. Ça, c'est quelque chose qui me gêne. Ça, je le réserve au message publicitaire. Et l'écriture, effectivement, c'est peut-être le dernier espace, la fiction en tout cas, et sans doute peut-être le dernier espace de doute qu'on ait, parce que la politique ne l'offre pas du tout, par exemple. Ce n'est pas du tout un endroit pour le doute, hein, la politique. C'est ce qui est si dérangeant pour moi chez les hommes et les femmes politiques, c'est leur absence totale de doute. C'est très gênant, quoi. Mais c'est vrai. Mais peut-être que oui, peut-être que cet espace-là, il est. En tout cas, il renvoie des questions. Ce vide qui est tellement voulu parce que il y a. Il y a très concrètement, parce que c'est très concret tout ça, c'est-à-dire je pense que dans la première demi-heure où je me suis assise, j'étais dans la chambre des parents et de Margot Frank, la grande sœur, et j'ai vu un petit rectangle de papier peint de loin, comme ça, qui était encadré, justement comme dans un musée. Sauf que moi, ce que je voyais, c'était du vide. Je voyais un rectangle de papier pas encadré, en fait, avec rien dedans. Et je me suis approchée avec ma lampe de poche, mon téléphone. Et là, j'ai vu les petits traits de crayon que Otto Frank avait tracés pour mesurer la croissance de ses filles. C'est la première chose que j'ai vue. À la fois, c'est dérisoire, à la fois, c'est bouleversant. C'est encadré parce que c'est la seule chose qu'on peut encadrer. C'est-à-dire qu'il y a eu de la vie dans l'annexe. Ils ont vécu. Elle a vécu. Et elle a tellement vécu. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement battue pour écrire. Concrètement, elle a arraché des heures d'écriture à l'adulte qui partageait sa chambre. Elle s'est moquée des adultes qui l'entouraient. Elle en a tracé un portrait sans concession. Il y a tellement de vie chez elle, quoi. Et voilà, donc là, il y a une petite trace de vie.
Qu'est-ce que vous en diriez de cette autrice? Comment vous pourriez en parler de Anne Frank, de cette autrice, de la façon dont elle travaille son texte, de ce qu'elle donne à lire, de cette expérience?
Sidérante de maturité. Je veux dire, ses choix sont incroyables. La façon dont elle fait alterner les moments de drôlerie et puis de tension et puis de vision de l'extérieur, la façon dont elle mêle l'intime au politique en parlant de ce qui se passe et puis de ses sentiments, beaucoup de maturité. Honnêtement, je pense que la seule chose que je pourrais dire, enfin, je peux pas la juger, mais c'est quelle peine de ne pas pouvoir lire ce qu'elle aurait écrit. Sur elle, c'est qu'est-ce qu'elle aurait écrit? Parce qu'évidemment qu'elle était autrice. Et on ne la lira pas. On ne lira pas ce qu'elle aurait écrit.
Vous dites aussi finalement que choisir l'annexe pour passer une nuit au musée, ça correspondait pour vous, pour votre histoire, au fait que vous avez la sensation que vous avez un goût mal rangé et que vous ne pouviez pas vous imaginer dans un musée avec des tableaux artistiques comme si vous n'en étiez pas légitime.
Je ne me sens pas du tout légitime à juger d'une œuvre d'art. Pas du tout, j'ai pas la culture qu'il faut. J'ai vraiment cette sensation d'être moi, j'ai vraiment besoin de prendre un audio guide ou quelque chose, quelqu'un qui m'explique beaucoup de choses. Je le ressens vraiment. Ça, c'est quand on parle de, vous savez, l'expression capital culturel. je pense pas que je sois apte à juger d'un musée. Puis il faut. Oui, c'est ça, il faut se sentir légitime. Là où j'hésiterai pas à donner mon avis sur un spectacle de danse, parce que je connais. Oui, ça s'est imposé un lieu de... C'est un lieu curieux, parce que c'est un lieu de vie, un lieu de mort. C'est à la fois un refuge et puis un piège. C'est quelque chose qui est derrière une fausse bibliothèque, qui abrite la vie d'une écrivaine. C'est un lieu... Et puis, c'est un lieu... C'est un lieu qui, comment dire, qui, moi, je fais très attention aux mots et aux expressions. J'adore interroger les expressions. Et vraiment, quand j'ai commencé à dire que j'allais faire ça autour de moi, que j'allais écrire autour d'Anne Frank, on m'a souvent dit « Ah oui, oui, Anne Frank, on connaît ». Et j'entendais à chaque fois « Oui, bon, ça va, on la connaît ». Et je me suis dit... On connaît parfois, ça veut presque dire il faudrait passer à autre chose. Et je crois qu'il ne faut pas passer à autre chose, en fait.
Et justement, comment on fait pour ne pas oublier, qui est aussi un vrai sujet dans ce livre, hein, puisque dans votre nuit au musée, vous finalement, vous êtes aussi avec d'autres personnes, oui, de votre famille ou des gens que vous avez rencontrés. On y reviendra peut-être, mais et ce sujet, c'est vraiment celui-là aussi. Ne pas oublier, la différence entre ne pas oublier et pardonner aux autres, mais aussi à soi-même, corporellement. Puisque je parle du corps, parce que vous citez Geneviève Brisac, par exemple, en disant les anorexiques sont aussi des jeunes femmes qui souffrent de paroles qui n'ont pas eu lieu. Parce qu'il y a beaucoup de citations dans votre livre. Pardon, là, je vous mets beaucoup d'idées en même temps. Donc, je reprends ma question. En réalité, là, voilà, sur cette question de l'oubli, vous nous amenez à nous interroger sur la différence entre le fait de ne pas oublier et le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir pardonner. Comment vous avez fait, vous, Lola Lafont?
Sur quoi ?
Sur le fait de différencier le pardon et l'oubli.
C'est compliqué. C'est-à-dire que je peux vraiment pas parler d'Anne Frank sur le pardon. Enfin, c'est-à-dire que je pense que là, on sort de... quand on parle de la Shoah, je crois pas qu'on est... Je crois pas qu'on soit sur le terrain du pardon ou de pas pardon. Je crois que c'est un petit peu à part. Enfin, Yankelevitch en a très bien parlé et moi, je me sens pas du tout à la hauteur d'un philosophe ou d'une philosophe pour pouvoir savoir si on pardonne un génocide ou pas. Je crois que la vraie question, pour moi, elle est dans... Il faut pas effacer les traces. C'est vraiment l'histoire de traces. Il faut le besoin qu'on a de suivre les traces pour ne pas les oublier. Et comment faire, justement, quand on suit des traces et qu'on essaye de les retrouver, comment faire pour ne pas les effacer nous-mêmes ? Comment faire pour suivre des traces sans marcher dessus et sans les effacer, sans parler plus fort des gens, plus fort que les gens, pardon. C'est-à-dire que quand on écrit sur quelqu'un qui a existé, et ça a été la question pour moi trois fois déjà, puisque c'est mon troisième roman biographique, j'essaye de ne jamais parler à la place des gens, ni pour les personnages, mais de leur offrir un espace. Voilà. Donc c'est peut-être ça. Je ne sais pas si c'est la question du pardon évoquée dans Chaviré, c'est sûr. Pour moi, qu'est-ce que je fais avec la question du pardon ? Je pense que je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'oscille entre la certitude que c'est la seule possibilité, que le pardon, c'est vraiment... Mais il faut que ce soit les autres qui demandent pardon, donc à la limite, je vous dirais que c'est pas vraiment la question comme... C'est pas vraiment la question de la personne qui a été offensée ou violée, ou c'est la question des autres.
Mais et justement, donc, je parlais des personnages qui vous ont accompagné dans cette nuit au musée. Donc, il y a votre grand-mère qui vous avait offert un médaillon très particulier. Et il y a un jeune homme que vous avez rencontré quand vous aviez 8 ans, qui avait 16 ans, je crois. Et qui est un jeune homme qui a été sacrifié, finalement. Oui.
Alors, c'est finalement, j'avais pas prévu. Évidemment, quand on commence à écrire, on ne sait pas tout. Je suis rentrée dans l'annexe sans idée préconçue. J'ai réalisé que je ne savais rien, pour commencer. C'était voilà. J'ai trouvé par la suite tellement de choses, comme je vous le disais au début. J'ai trouvé tous les extraits du texte qui ont été coupés. J'ai trouvé la façon dont le film aux 4 Oscars a été une réécriture de l'histoire d'Anne Frank, kitsch, terriblement kitsch et terriblement coupable pour le coup, de nous raconter une autre histoire, de ne pas vouloir nous dire la fin de l'histoire d'Anne Frank, parce que la fin d'Anne Frank, il faut la connaître aussi, il faut la dire. Elle est morte du typhus comme sa sœur à Bergen-Belsen et finalement on passe souvent cette fin là un petit peu comme ça rapidement. Et quand je suis rentrée au bout de plusieurs heures pour vous dire la suite de la nuit, effectivement c'est l'image d'un autre adolescent qui est venu frapper à la porte et d'une autre victime d'un autre génocide. Et tout d'un coup, sa place a été incontestable parce que j'ai réalisé que j'avais croisé un adolescent un jour, enfant, moi, quand j'étais enfant, et que finalement, il m'avait écrit comme un genre de testament. Et j'ai réalisé aussi qu'on est toujours investi de plein de testaments, en fait. Et puis, on peut choisir de les oublier ou de s'en souvenir, mais on croise des gens et puis ils nous laissent des signes, ils nous laissent des objets, ils nous laissent des lettres. Et parfois, ce sont des testaments. Et la nuit m'a permis de l'entendre, de quoi je suis dépositaire.
Sur cette question-là, vous citez Louise Bourgeois qui dit que finalement, on ne convoque pas les souvenirs, ils vous assaillent à un moment donné. Et voilà. Et Et c'est à ce moment-là aussi que vous réalisez que ces deux personnes qui sont avec vous à l'annexe, symboliquement, cette nuit-là, donc votre grand-mère et ce jeune homme, vous ont tous les deux demandé de ne pas oublier. Quelque part, est-ce que ce lieu-là avait la place pour vous permettre de comprendre cette demande?
Oui, je pense que oui, parce que finalement, parfois, il faut passer par l'histoire des autres pour comprendre la sienne. Et moi qui, je le dis dans le livre, ai été totalement réfractaire à ma propre histoire, qui ai refusé la judéité, qui n'ai pas voulu m'emparer, je n'ai jamais écrit... À part un tout petit peu dans Chaviré, un personnage qui n'avait pas envie d'être juif faisait son apparition, mais quand même, c'était déjà mon sixième roman. Moi qui étais dans Je veux bien parler de tout sauf de ça, je veux bien lire tout sauf ça, je me suis enfermée dans un lieu qui ne parlait que de ça. Et puis ça m'a amenée vers un autre. Donc ça m'a amenée vers un autre génocide aussi. Et. Encore une fois, je vous dis, c'est pas une question de ligne parallèle, mais de reflet. C'est-à-dire que clairement, dans l'annexe, il y a des choses qui se reflètent. Ma grand-mère m'a offert une médaille Anne Frank en me disant qu'il ne fallait jamais l'oublier. Et je ne me souviens pas du tout qu'elle m'ait expliqué pourquoi, quoi. Non, c'était comme ça. Donc, peut-être que c'est ça aussi, être écrivain. C'est être chargé de plein d'injonctions à ne pas oublier des gens, des paysages.
Quand vous dites que vous n'avez pas un goût assez bien rangé pour être dans un musée de tableaux, on a envie d'y voir un lien aussi entre dans votre description des chambres d'adolescentes. Vous parlez de Chaviré et typiquement l'adolescence, vous montrez, comme quand vous parlez de la chambre d'Anne Frank, qui est une chambre entre guillemets mal rangée, c'est-à-dire aussi bien avec des acteurs de cinéma, des princesses, des petits chiots. Donc, c'est de ce goût-là dont on parle aussi et pas seulement le goût d'une honte culturelle.
De rester dans le bordel de l'adolescence, oui,
je veux dire, ou en tout cas d'en être imprégné.
Il est question de ça. Oui, si je regarde mon appartement, ça doit être vrai. je sais pas.
Est-ce que c'est pas un endroit, une source de création pour vous aussi, Lola Lafont, cet endroit qui serait l'écriture, dans lequel vous dites c'est mal rangé et dans lequel vous mettez de l'ordre à chaque livre?
Alors oui, c'est-à-dire que moi je tiens mon journal et relire son journal d'adolescence, alors ça, c'est pas le rangement physique, mais c'est vraiment d'aller regarder le désordre qu'il y a eu pendant ces années-là, comment ça fuse de tous les côtés, comment les choses sont intenses ou pas du tout, très banales, triviales ou énormes. Et puis, moi, la question qui m'obsède parfois, c'est est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on a été adolescent, parce que moi je crois que entre 11 et 16 ans il y a une sorte de d'hyper lucidité, on comprend tout et puis après on oublie en fait. Et donc comment effectivement on peut pas revenir en arrière en fait, on peut pas redevenir adolescent et c'est pas souhaitable d'ailleurs, mais comment rester à l'écoute de ce qui était l'adolescence, tout ce qui était l'adolescence, et puis de cette capacité à mettre le bordel, quoi. Oui,
comment vous expliquez finalement
parce que le journal d'Anne Frank, il est très adolescent dans ce sens-là, dans un très beau sens. Tout est à la fois tout s'enchaîne très très bien dans l'écriture. Et en même temps, elle est capable de passer de sa terreur des nazis dans la rue, de sa préscience que s'ils sont arrêtés, ça va être terrible. Elle le sait, elle comprend. Et puis, tout de suite après, elle émet un jugement assez lapidaire sur sa mère et sur le couple de ses parents. Et c'est normal, c'est comme ça.
Comment vous expliquez qu'on soit si dur nous, les adultes, la société en général, au regard de l'adolescence et pas de l'enfance.
Alors, on n'est pas que dur, c'est-à-dire que la jeune fille, la figure de la jeune fille, on est dans un monde obsédé par la figure de la jeune fille. Elles sont utilisées pour la mode, la publicité, donc l'image de la féminité absolue, c'est la jeune fille. Donc on est dans un monde qui utilise l'adolescence pour vendre terriblement, tout en ne leur laissant aucun espace de parole. C'est-à-dire que c'est ça le truc. Oui, évidemment qu'on est beaucoup plus... Les parents sont souvent, moi ça me frappe beaucoup, très charmés par la fantaisie des tout-petits. Et puis tout d'un coup, un adolescent, une adolescente être brutalement sincère et puis on va trouver que c'est que c'est malvenu, que c'est mais parce qu'ils nous renvoient un miroir terrible, parce qu'ils sont capables de nous renvoyer un miroir terrible.
Dans votre écriture, il y a de ce mouvement là, le Lalafon. C'est un mouvement dont en parlant avec vous, je me dis qu'il vient aussi de votre façon d'écrire, telle que vous venez de nous la raconter, mais aussi de la danseuse que vous êtes. Et du mouvement perpétuel, c'est-à-dire que vous savez nous prendre par la main. Vos livres sont toujours de cet ordre du ballet littéraire où c'est à la fois d'une grande précision et en même temps du mouvement. Et en même temps, la phrase ne s'arrête pas là où on pense qu'elle va s'arrêter. Vous nous emmenez un peu plus loin. Le mouvement ne s'arrête pas. Comment vous vivez l'écriture d'une façon physique? Comment vous la ressentez? Puisque je l'ai dit au début de cette rencontre, vous écrivez beaucoup sur le corps. La danse est importante aussi dans votre écriture et même par moments, on la retrouve dans vos livres, de toute façon, pas seulement dans Chaviret. Ça représente quoi physiquement l'écriture pour vous?
Un épuisement. c'est à la fois quelque chose, comme vous dites, le mouvement ne s'arrête jamais, donc c'est profondément la vie, c'est profondément vivant. C'est un dialogue. D'ailleurs, il y a quelque chose qui, quand je dis c'est un dialogue, moi je dis à voix haute tout ce que j'écris. C'est pour ça que je dois écrire seule, parce que sinon j'aurais vraiment été très gênée. C'est vraiment la différence entre le journal intime pour moi et le roman. C'est-à-dire que le journal, ce qui est formidable, c'est que on pense pas à être lu. C'est pas fait pour ça, théoriquement. Hein, on se parle. Alors que la fiction, toutes les formes de fiction se dirigent vers les autres, sont tournées vers l'extérieur. Il y a quelqu'un derrière, quoi. Il y a à la fois ça, ce dialogue, cette nécessité de dialogue, et puis... moi, j'ai vraiment un besoin de rythme. C'est-à-dire que les choses, effectivement, doivent être rythmées. Il faut qu'il y ait une musique. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'écriture.
Quand vous écrivez avec ce rythme, est-ce que vous vient en tête des moments de votre travail de danseuse ?
Non, ça ne me vient pas en tête, mais j'y trouve beaucoup de... Il y a beaucoup de similitudes. La similitude, c'est la frustration, je pense. C'est-à-dire que quand on est danseur, tous les matins, ce que vous avez réussi la veille est remis en cause le lendemain. En fait, vous pouvez très bien avoir fait trois pirouettes le vendredi soir et puis le samedi matin, vous cassez la figure sur une et demie. C'est tout à fait possible si vous n'avez pas dormi, si vous êtes fatigué, etc. Et l'écriture... Il y a quelque chose de très profondément rageant parfois et humiliant à ne pas réussir à créer l'image qu'on veut et à s'obstiner à avoir exactement le mot juste. Donc il y a vraiment un rapport à l'obstination, je pense, ne pas lâcher. Je pense que c'est ça le rapport. Et puis ne pas montrer l'effort.
Est-ce que vous avez conscience que vous savez parfaitement écrire la douleur ? Tout en faisant en sorte que votre lecteur ne sombre pas dans la douleur.
Non, je n'avais jamais pensé à ça, mais ça me fait plaisir. Alors parce que effectivement, ça me fait plaisir parce que c'est un peu ça qui était compliqué avec ce texte et puis avec le précédent, avec Chaviret, les deux. C'est-à-dire que on devrait écrire surtout, évidemment. Moi, je Il n'y a pas de chose où je ne me dis pas comme le producteur qui a ratiboisé le journal d'Anne Frank. Non, ça, c'est trop triste. Donc, on ne va pas parler de ça. Non, jamais. Mais en revanche, comme l'écriture, comme je vous disais, c'est une preuve qu'on est vivant. On écrit parce qu'on est vivant. On dit qu'on est vivant. Il faut que ça aille vers une forme de vie. Il faut que ça aille vers quelque chose de l'ordre de l'action, dans le sens où moi j'aime bien l'idée de lire et d'avoir du désir après pour la vie et pas d'être anéanti.
Est-ce que vous pensez que finalement vous transmettez un peu de votre propre pudeur émotionnelle? Tout à l'heure vous nous dites, quand je suis rentrée dans l'annexe, j'avais pas envie de pleurer. Est-ce que finalement c'est ça qui fait que vous écrivez comme ça sur la douleur? C'est que vous avez une grande pudeur en vous, et est-ce qu'elle vous a pas été un peu transmise aussi, cette pudeur, comme un apprentissage?
C'est-à-dire que moi, je suis pas très importante. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que moi, je suis une sorte de vecteur. Il y a l'histoire d'Anne Frank, il y a beaucoup de choses dont je parle autour d'elle, des réflexions sur l'écriture, sur l'oubli. Et dans le meilleur des cas, on devrait pouvoir se passer de la parole de l'écrivaine. En fait, c'est ça que je pense. C'est-à-dire, je ne sais pas si on appelle ça pudeur, mais... moi, je pense que les écrivains sont un peu trop présents, mais parce que le texte devrait se suffire. Et j'ai l'impression qu'il ne faut jamais peser sur le lecteur. C'est toujours la même obsession, effectivement. C'est que je n'ai pas envie de les prendre par la main. Je n'ai pas envie de leur dire, bah, voyez, ça, c'est bien, et puis ça, c'est pas bien. Il faut pouvoir offrir de la liberté aussi dans un livre. C'est difficile parce qu'on a tendance à... J'essaye de mettre de côté ce que je pense, ce que je crois. C'est un exercice passionnant, hein. Mais je n'ai pas envie de dire, comme dans la vie, dans un dîner avec des amis, je dis ce que je pense, ce que je crois. Mais dans un roman, j'aime bien l'idée que je laisse les questions ouvertes. Enfin.
Et en quoi les mots sont-ils la géographie de notre temps ? Ce que vous écrivez, hein.
À la fois, ils sont tellement... Oui, je me souviens.
Je le dis pour les gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, qui n'ont peut-être pas encore lu votre livre. Ouais. Pour vous, vous dites que les mots sont la géographie de notre temps. En quoi ?
Écoutez, on n'a que ça, en fait. Je veux dire, c'est en réalité, on n'a que les mots. C'est à la fois, moi, j'adore l'idée, les mots, parce que c'est tellement concret. C'est tellement concret. C'est des petites choses qui changent tout, qui défont des embrouilles, qui provoquent des guerres, qui font naître des histoires d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des mots, en fait. Et je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est terrible parce que les adolescents sont sur leur téléphone, parce que en fait, ils n'ont jamais autant écrit. Moi, c'est ce que je me dis. Ils écrivent énormément. Donc, cette sorte de retour à l'écrit... c'est la foi dans les mots. Donc oui, c'est une géographie, c'est-à-dire qu'on est là en train de naviguer, on choisit nos mots tout le temps, toute la journée. Donc je trouve ça c'est formidable. Ouais.
Et alors, si on considère que les mots sont une sorte de socle indispensable, les mots d'Anne Frank résonnent autrement?
Si
on considère que les mots sont un socle indispensable, est-ce que tout d'un coup les mots d'Anne Frank résonnent autrement, dans le sens où finalement c'est ça le socle, c'est le mot, le récit, et non pas les photographies, et non pas le lieu, et non pas la symbolique qu'on veut y mettre et qui rejoint une de vos thématiques, hein, c'est-à-dire la symbolique du héros et non plus la parole des fragiles ou des fragilisés? Donc
oui, c'est un peu comme on disait au début, c'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que, vous savez, il y a 15 jours, je crois, 3 semaines, au Texas, des fondamentalistes chrétiens ont interdit le journal d'Anne Frank dans les bibliothèques scolaires. Ils ont voulu le sortir, encore une fois, des bibliothèques scolaires en trouvant qu'elle était un très mauvais exemple pour la jeunesse. C'est dire si les mots sont importants et s'ils sont puissants, ces mots. Pourquoi ? Parce qu'elle décrit son sexe, parce qu'elle parle de son extase pour le corps des femmes, j'en sais rien en fait. mais c'est quand même parlant. Et d'un autre côté, ces pauvres petits mots d'une jeune fille assassinée dans un génocide, ces pauvres petits mots, ce ne sont que des adultes qui s'en sont emparés et qui en ont fait n'importe quoi. Hannah Arendt parlait d'une sentimentalité terrible, je ne sais plus la citation exacte, mais et elle a tellement raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire son marché dans un texte iconique. On ne peut pas dire « je retiens que Anne Frank a dit « je crois encore à la beauté, à la bonté des hommes » et ne pas se souvenir que juste quelques lignes au-dessus, elle parle de sa terreur de la guerre et de son dégoût du goût des hommes pour la guerre. On ne peut pas faire le choix. On doit prendre le texte en entier. Donc, voilà.
Quand vous dites que les jeunes filles sont des proies et que finalement ce texte a été si interprété, vous pensez que ça aurait été très différent si ça avait été un jeune homme ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est impossible pour moi d'imaginer.
Mais il y a une charge sur Anne Frank qui est une charge aussi liée au fait que c'est une jeune fille.
Alors, la charge sur Anne Frank, c'est-à-dire que c'est de savoir que les premières... Ça, c'est, oui, les premières éditions, et puis je crois très, très longtemps, on les a illustrées avec une photo d'elle quand elle avait 11 ans. C'est quand même pas inintéressant. C'est-à-dire qu'on l'a encore rajeunie. Alors là, c'est vraiment la précocité qui fait vendre. Il n'y a quand même qu'entre 13 et 15 ans. Et pourtant, une des photos qu'on trouve le plus souvent, c'est encore avant. Alors qu'on a des photos d'elle à 13 ans. On en a. Et son père les photographiait beaucoup, beaucoup. Hein. Elles sont magnifiques, d'ailleurs, les photos des sœurs Franck. Et puis, ce qui est troublant, c'est que... J'ai pas regardé les dernières éditions, mais moi, l'édition que j'ai lue, et puis bien après, on n'a jamais une mention de son travail. Donc, oui, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on est là dans l'image de la jeune fille spontanée. Ce sont ses pensées qu'elle nous a livrées comme ça. Et on ne dit pas, non, c'est une jeune fille qui a travaillé, en fait, tous les jours. Tous les jours, elle a travaillé à réécrire. Donc, on invisibilise son travail, clairement.
Donc elle reste...
Ça, c'est peut-être un peu lié au fait qu'elle soit une jeune fille, mais je ne sais pas.
Et finalement, selon vous, Lola Lafont, qu'est-ce qu'elle ne dit pas, Anne Frank ?
Ce qui est terrible, c'est qu'elle ne nous raconte pas... Elle ne peut pas nous raconter la Shoah. C'est pour ça que c'est si problématique de penser qu'on connaît l'histoire de la Shoah parce qu'on a lu le journal d'Anne Frank, parce qu'elle en est victime. Donc le journal s'arrête au moment où elle est arrêtée. Elle ne peut pas raconter premier camp, Westerbork. Elle ne peut pas raconter Auschwitz. Et elle ne peut pas raconter Bergen-Belsen. Et pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, pour d'autres gens qui apparemment, que j'ai lu, des historiens, des gens beaucoup plus spécialistes que je ne le suis, la question c'est de savoir si le succès du journal d'Anne Frank tient à ça. Au fait qu'on est épargné de ces visions-là et que si, comme Primo Levi, elle avait écrit, si elle avait survécu et si elle avait écrit ce qu'elle avait vu, peut-être que ça n'aurait pas été un tel succès. Et ça, c'est une question terrible, je pense.
Je vous remercie, Lola Lafont.
Merci à vous.